Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, il y a un nouveau sketch d'un humoriste français, il s'appelle Bigard, qui peut être parfois très, très grossier et très peu édifiant. Mais en même temps, j'ai entendu une fois seulement, mais j'ai entendu ce sketch où il prend des proverbes et les détourne. Les proverbes, c'est souvent une façon de rappeler des vérités axiomatiques, des vérités qui vont d'elles-mêmes, mais qui sont sous une forme condensée et une forme souvent amusante, qui rappelle des choses sérieuses. Et peut-être vous pouvez... Il y a quelqu'un qui peut penser à un proverbe qu'il connaît bien ou qu'il a... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un proverbe à partager? Oui. Dis-moi qui tu hantes, qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Oui, c'est un bon proverbe. Pour moi, il y en a un, mais il l'a détourné, cet humoriste. Il a dit « Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle est mouillée. » En fait, c'est qu'à la fin, elle se casse, si on utilise beaucoup un... Et aujourd'hui, dans notre passage... Ecclésiaste 10, on va voir qu'en fait, ça se présente un peu comme sous forme de proverbe. Ça ne devrait pas nous surprendre quand on se rappelle que l'auteur, à 99%, on pense que c'est le roi Salomon, le même roi qui a été l'auteur en grande partie du recueil des proverbes que nous trouvons dans nos Bibles. J'aime bien aussi le titre qui est ajouté dans ma version de la Bible. C'est la version de la Bible à la colombe. Si vous n'avez pas de Bible et que vous souhaitez en utiliser une, vous pouvez lever la main et on viendra vous en prêter une. Il faut savoir que les proverbes, plutôt les divisions de notre Bible, des livres de la Bible en chapitres et en versets, c'est relativement récent. C'est pas quelque chose qui a été inspiré par Dieu, par l'Esprit Saint, mais c'est une façon pratique pour nous de trouver, de nous repérer dans la Bible. Si on n'a pas tous la même version, c'est difficile de dire « Allez au milieu de la page 662 et on va parler du texte là. » Je vous rappelle que les chapitres ont été mis en place en 1227 par quelqu'un qui s'appelait Stephen Langton, un Anglais, et les versets, ça a été mis en place en 1551, par un Français. Waouh ! Robert Étienne. Voilà, donc, lorsque le chapitre 10 commence, en fait, on est toujours sur l'idée de la fin du chapitre 9. Et certaines versions ajoutent des titres pour résumer un peu de quoi il s'agit. Et dans la version à la colombe, ça s'appelle « Danger de la sottise ».« Danger de la sottise ». C'est un mot vieilli, ça, on ne dit plus que « quelle sottise ». Le gouvernement vient de faire une sottise. On a des mots plus forts, on a des mots pas toujours édifiants. La Bible, elle, parle de la folie, la sottise. Et on va voir dans ce passage qu'il y a beaucoup de dangers associés à la sottise, à la folie, à la bêtise, on dit aussi aujourd'hui. L'idée développée dans le chapitre 9 à la fin, c'était la sagesse qui est l'opposé normalement de la folie, vaut mieux que les armes de combat. mais un seul pécheur anéantit beaucoup de biens. Et l'idée, donc, qui était développée, c'est qu'il suffisait d'un peu de pécheur pour faire beaucoup de mal ou anéantir beaucoup de biens. Et donc, c'est l'idée que les petites choses peuvent avoir de graves conséquences. On va lire ensemble à partir du verset 1, le chapitre 10. On va lire les trois premiers versets. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage l'incline à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque et il dit de chacun « Voilà un insensé ». Donc il est question dans ce passage d'huile du parfumeur. Des fois les traductions parlent de l'huile de l'apothicaire. Le pharmacien, c'était aussi celui qui mélangeait les parfums. Et ce proverbe ou cette expression nous dit qu'en fait, une mouche morte va infecter, faire fermenter l'huile du parfumeur. Salomon nous a parlé dans l'Ecclésiaste 7, dans le chapitre 7, qu'une bonne renommée valait mieux que de l'huile parfumée. Aujourd'hui encore, l'huile parfumée, les parfums, ça peut coûter très cher. On vit dans une région qui est réputée pour son expérience, son expertise en parfums. On va à Grasse et on peut acheter les parfums Molinard, Fragonard. On peut aller à Aise, le village, visiter l'usine plutôt des parfums. Et c'est rarement qu'on trouve une grosse mouche dans un flacon de Chanel number 5, Chanel numéro 5. Et si c'était le cas, on serait dégoûté et ça ferait beaucoup de tort à la marque de parfum Chanel. Il est question de mouches mortes ou de mouches qui amènent la mort. C'est pas important. Le résultat, c'est que ce qui aurait dû être un parfum apprécié, renommé, devient quelque chose de putride, quelque chose qui sent mauvais, quelque chose dont on ne veut pas. Et l'idée, c'est que la folie, il dit un peu de folie, l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. L'idée, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de folie, il n'y a pas besoin de grandes choses pour gâcher, donc en restant en parallèle avec le chapitre 7, pour gâcher une réputation. Mais aussi l'idée qu'une petite chose peut avoir de graves conséquences. On le voit dans le récit biblique où la promesse, par exemple, de Jephté qui avait dit que la première personne qu'il verrait, il la sacrifierait pour Dieu, et il s'est trouvé que c'était sa propre fille qu'il a dû mettre à mort. Et dans la vie en général, on voit que on peut bâtir sur le long terme. Et puis un moment de folie, une petite chose va tout gâcher. Ça peut être une jeune fille qui est élevée par ses parents dans le respect du Seigneur et qui va se retrouver à tomber dans les bras d'un homme peu recommandable, se retrouver enceinte et gâcher un peu sa vie. Dieu merci, Dieu peut racheter ces situations, mais on voit que en un instant, on peut détruire l'œuvre d'une vie. Quelqu'un qui vient à l'esprit, c'est Dominique Strauss-Kahn. Alors, il y avait une vie parallèle apparemment qui était mauvaise et pleine de graves conséquences. Mais on peut penser que s'il n'avait pas été pris dans cette histoire de l'hôtel à New York, ce serait peut-être lui qui gérait les affaires publiques de la France. Toute une vie de travail, d'ambition politique, et puis pof, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Alors on peut toujours dire, oui, oh là là, Strauss-Kahn était le roi de la Bible. Mais encore une fois, la Bible, elle accomplit ce pourquoi Dieu l'a envoyé lorsque elle nous remet en question. Est-ce que nous aussi, on n'est pas capable des fois de gâcher les choses, de gâcher des efforts constants, gâcher une vie avec un petit moment de folie? Un peu de folie, il n'y a pas besoin d'une grande quantité pour gâcher une réputation. On connaît malheureusement des pasteurs qui peuvent avoir un ministère influent, être respectés de façon internationale et vont tomber dans l'adultère pour un moment de passager de plaisir, entre guillemets, et gâcher tout. Un peu de folie gâche toute une réputation, une vie. Il continue en disant « Le cœur du sage l'incline à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. » Alors je vous rassure tout de suite, il ne parle pas de politique. Ça ne veut pas dire qu'on est insensé si on a tendance à pencher à gauche. La gauche et la droite, ce sont des concepts lié à la représentation démocratique avec des hémicycles où on place des gens d'un certain tendance ou désir ou philosophie politique. Et donc ça n'a rien à voir. Mais c'est intéressant que, et ça c'est sans doute parce qu'il y a une majorité de gens qui sont droitiers, que la droite représente ce qui est bien. La droite, c'est, si on est droitier, c'est normalement le bras qui est le plus fort, parce que c'est celui qu'on a tendance à utiliser. Et vous avez tous fait l'expérience, si vous êtes droitier, d'essayer de jeter une balle avec votre main gauche, et vous êtes tellement gauche, c'est le cas de le dire, c'est risible. Et inversement, si vous êtes gaucher, que vous essayez de lancer une balle avec la main droite, vous allez être vraiment maladroit, mal à droite. Et donc il y a cet usage des mots qui fait que droit c'est bien, le bon droit, et gauche c'est pas très bien. Sauf si on se place sur le terrain politique et qu'on associe à ce qui est traditionnellement des positions politiques de gauche avec des choses qui peuvent être très louables et très, très remarquables. Mais ce qui est drôle, c'est que dans le langage, en latin, le mot de gauche, c'est sinistra, en italien aussi, qui nous a donné le mot de sinistre. Quand vous remplissez des papiers d'assurance, on vous demande d'expliquer les raisons du sinistre. La gauche, ça a pris un sens. Et donc là, il est en accord avec cette façon de voir les choses, que la gauche, c'est pas bien, et la droite, c'est bien. Et si on est sage, on va avoir tendance à faire des choses bien. Si on est insensé, on va avoir tendance à faire des choses qui ne sont pas bien. Et donc, il montre que il y a une opposition entre la sagesse et la folie. Le sage, c'est la sagesse, bien sûr. L'insensé, c'est la folie. Et il dit, quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque. Le bon sens va lui manquer. Et c'est lui qui va dire des autres, voilà un insensé. Et quand est-ce qu'on voit, comment on peut reconnaître un insensé lorsqu'il marche sur une route? Alors peut-être c'est parce qu'il va marcher en plein milieu de la route, c'est pas prudent. Peut-être c'est parce qu'il va tituber, ce qui veut dire qu'il est peut-être sous l'influence de l'alcool ou d'autres drogues. Et puis souvent c'est parce qu'il va vociférer, il va insulter tous les gens autour de lui. C'est un peu plus difficile à reconnaître aujourd'hui parce que des fois on pense que la personne est un peu cinglée, qu'elle parle toute seule. En fait, elle parle dans son téléphone portable. Mais ce qu'il remarque, c'est que le fou pense que les autres sont fous. Et ça devrait nous mettre en garde lorsqu'on juge tout le monde autour de nous en pensant qu'ils sont stupides. Peut-être qu'on devrait commencer par se juger soi-même. Il continue en disant, voilà un insensé. Donc là, c'est encore l'idée, il expose le principe, il déplore la folie qui nous guette tous. La folie qui peut gâcher une réputation en un instant, la folie qui est un mauvais guide parce qu'elle va nous mettre avoir tendance à nous faire des choses qui sont mauvaises. Le cœur de l'insensé va être incliné à sa gauche. Et puis cette petite folie, elle va aussi trahir notre stupidité. Donc ça, c'est le principe, c'est que un peu de folie va présenter beaucoup de dangers. Et puis, il va appliquer ce principe à quatre domaines. On va lire les versets 4 à 7. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place, car le calme évite de grands péchés. Il est un malheur que j'ai vu sous le soleil. Vous vous rappelez cette expression qui veut dire que c'est ici-bas, sans référence à Dieu, une vie qui ne fait pas référence à Dieu. Un malheur que j'ai vu sous le soleil comme une inadvertance, échapper à celui qui gouverne. La sottise est placée au poste très élevé et des riches sont placés dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchaient à pied comme des esclaves. Là, il parle de la folie lorsqu'elle s'applique à celui qui domine. Ça peut être un gouvernant, ça peut être un responsable dans une association, un responsable dans une église, ça peut être votre patron. Et il y a des moments où l'esprit du chef, celui qui domine, va s'élever contre moi. Et là, il donne un conseil plein de sagesse. Encore une fois, son désir, c'est de nous garder des dangers de la folie. Et si vous faites, entre guillemets, enguirlander, engueuler par votre patron, peut-être que vous avez envie d'envoyer tout bouler, et de lui dire, puisque c'est comme ça, je démissionne, voilà, on ne me traite pas comme ça. Et en fait, ça, c'est souvent une marque d'orgueil personnel. Ah, on me traite comme ça, moi je vais exploser, je vais le remettre à sa place. Et là, il nous dit, ne quitte pas ta place. Ne démissionnez pas dans le cas d'un employeur, ne démissionnez pas sur un coup de tête. Il y a des fois où ça fait du bien d'envoyer les gens balader. Mais souvent, c'est de la folie. Parce que quitter un travail par les temps qui courent, ça veut dire avoir à aller s'inscrire à Pôle emploi, ça veut dire avoir à rechercher un emploi. Alors ça ne veut pas dire que c'est toujours mauvais, mais réfléchissez bien à ce que vous faites. Lorsque j'envisageais de quitter mon travail aux États-Unis pour me consacrer au ministère, je ne savais pas trop ce que ça représentait, mais je me souviens, j'avais été marqué par un conseil que j'avais trouvé dans un livre chrétien qui disait « Ne prenez jamais de grandes décisions lorsque vous êtes déprimé ou en colère. » Ça, c'est la sagesse. C'est ce qu'il continue en disant « Le calme évite de grands péchés. » On a des fois où notre, surtout si on a un tempérament un peu fougueux, on aimerait bien envoyer les gens balader, que ce soit le patron, le président de la République, le pasteur, ou on a envie de leur dire nos quatre vérités. Vous pouvez me les dire, c'est pas un problème. Mais c'est beaucoup mieux de prendre le temps de se calmer. De se calmer. La nuit porte conseil. C'est un proverbe de la sagesse populaire, mais c'est un bon proverbe dans le sens où ça nous permet de nous calmer et de ne pas faire les choses qu'on regretterait parce qu'on se dit « en fait j'ai agi sous le coup de la colère ou j'ai agi sous l'émotion ». Le calme évite de grands péchés. Et ça c'est quelque chose qui nous est rappelé dans d'autres proverbes. Proverbe 16:32, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Des fois, c'est Proverbe 16:32, pouvoir se contrôler, c'est éviter que la folie passagère qui nous aveugle ne cause des conséquences difficilement réversibles. Quand on a dit ces quatre vérités au patron, c'est difficile le lundi matin de revenir en lui demandant de vous pardonner et de dire que vous souhaitez encore continuer à être employé par lui. S'il est intelligent et que vous êtes un bon employé, peut-être qu'il aura la force et le courage de vous reprendre, mais mieux vaut attendre lundi matin avant de donner votre démission. Et peut-être que pendant le week-end, vous aurez entendu un sermon sur la sagesse et la folie. Peut-être que vous aurez eu le temps de vous calmer et de remettre les choses en perspective. Mais c'est ce qu'il nous recommande. Dans le domaine de la folie du patron, faites attention aux petits coups de folie. Il est un malheur qu'il a vu sous le soleil, verset 5, que j'ai vu sous le soleil comme une inadvertance échappée à celui qui gouverne. La sottise est placée au poste très élevé et des riches sont assis dans l'abaissement. Il est souvent, une chose qu'on constate souvent, c'est que l'on voit des gens à des postes de responsabilité qui ne devraient pas être à ces postes de responsabilité. Que ce soit au travail, que ce soit en politique, que ce soit même dans l'église. C'est un peu comme quelque chose qui, parce que le boss, au lieu d'être orgueilleux et de vous, une fois que vous lui avez éclaté vous lui avez dit votre cas de vérité, il n'y a pas de façon qu'il vous reprenne. Là, peut-être que le boss, votre patron est trop souple ou l'homme politique au pouvoir est trop influençable et il place des gens à des postes clés qui n'ont rien à y faire. Vous l'avez tous vécu. Il y a des gens qui obtiennent une promotion alors qu'en fait, ils ne devraient pas l'obtenir. Et vous savez qui devrait l'obtenir. Bien sûr, c'est moi qui aurais dû avoir cette promotion. Et cet imbécile, mais c'est un malheur qu'il a constaté sous le soleil parce que les responsables peuvent gouverner avec un brin de folie. Et la sottise est placée au poste très élevé. Il y a un expert en management qui a écrit des livres dans les années 60-70, Peter Drucker, qui disait qu'en fait, on finit tous par arriver à notre niveau d'incompétence. On est un bon employé, on est promu comme patron d'une petite équipe, ça marche encore, mais on n'a pas nécessairement les qualités pour être directeur de la branche. Et il disait qu'en fait, quand on regarde autour de nous, tous les postes sont occupés par des gens qui sont, si le temps là est passé assez longtemps, on est tous gouvernés ou gérés par des gens qui sont arrivés à leur niveau d'incompétence. Ça, c'était ses recherches en management, ses recherches en gestion d'entreprise qui l'avaient convaincu de ça. Mais en fait, Salomon, 3000 ans plus tôt, avait déjà constaté que, ou 2500 ans plus tôt, avait constaté que la sottise est placée au poste très élevé. Et ça peut être au poste suprême de gouvernement, mais ça se passe aussi dans l'entreprise, dans les gens avec qui vous avez affaire, dans les bureaux de la fonction publique. Des gens qui auraient peut-être été des superbes facteurs, sympathiques et tout, mais qui se retrouvent à gérer des budgets pour la poste et qui en fait n'ont pas les compétences requises. Et puis, en même temps, il y a ces gens qui sont élevés, très élevés. Il y a des riches. Alors, maintenant, on pense que, et à juste titre, que la richesse n'est pas un gain de sagesse. Mais dans le contexte où Salomon parle, les riches, ce sont ceux qui ont de la sagesse et qui ont su faire fructifier leurs ressources. Et ceux-là, ils sont dans des postes subalternes, ils sont dans l'abaissement. Il a vu des esclaves sur des chevaux, c'est-à-dire des gens qui étaient en bas de l'échelle sociale, qui se sont retrouvés à parader. Alors ça peut être, dans des fois ça peut être de très bonnes choses, mais souvent... Les princes aussi avec qui il les associait à la sagesse, rappelez-vous que c'était un roi, il pensait que ses enfants, les princes, étaient des sages, qu'ils avaient hérité peut-être de la sagesse de leur père. On sait que le début des Proverbes, il parle à ses fils et il dit qu'en fait c'est la peur de l'Éternel qui est la meilleure garantie de sagesse, c'est le début de la sagesse. Proverbe 19, 10, il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Donc c'est quelque chose qu'il a remarqué et qu'on remarque nous aussi, Proverbe 19, 10, que souvent c'est pas les gens les plus compétents qui sont au poste de responsabilité. Il parlait dans les Proverbes 30, 21, c'était les sentences d'Agour, c'est un autre auteur de Proverbes qui disait « À cause de trois choses, la terre peut trembler, à cause de quatre, elle peut rester patiente, à cause d'un esclave qui vient à régner, d'un fou qui est rassasié de pain. » Cette idée que quelqu'un qui ne soit pas compétent, qui n'ait pas la formation requise, se retrouve au poste de responsabilité, c'est quelque chose qui lui rappelle qu'un peu de folie est dangereux. C'est intéressant, en ce moment, on parle de la baisse des dotations de l'État aux mairies. Et il y a des émissions toujours très intéressantes, mais qui ne semblent pas faire avancer les choses. Mais on disait qu'en fait, le principe de la démocratie, c'est que pour être élu maire, aucune formation préalable n'est requise. Aucune base économique n'est requise. Et quelqu'un peut être très sympathique et se retrouver à gérer une commune. Alors après, il y a des façons de recevoir de l'instruction. Mais c'est tout de même curieux qu'on ait besoin d'un permis pour aller à la pêche, mais qu'on n'ait pas besoin de permis pour se présenter aux élections de maire. Et ça m'a toujours choqué. Alors après, ça ne veut pas dire qu'une personne sans instruction n'est pas capable, et c'est aux électeurs, justement, au principe démocratique d'essayer de creuser un peu les choses et ne pas confier les responsabilités à des gens qui n'en ont pas les capacités. Mais ça, on va pas dévier dans la politique, c'est justement quand on prépare un texte et qu'on voit les nouvelles autour de soi, on est toujours frappé de la pertinence de la parole de Dieu. Et de voir qu'on voit des esclaves sur des chevaux et des princes marcher à pied, c'est quelque chose qu'on peut voir autour de nous. Il continue en parlant de la folie du travailleur, un peu de folie chez le travailleur, celui qui bosse, versets 8 à 11. Celui qui creuse une fosse y tombera. Celui qui fait une brèche dans une clôture sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé, celui qui fend du bois court un risque. Si le fer est émoussé et qu'on n'ait rien, on n'en ait pas aiguisé le tranchant, on devra redoubler de vigueur. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Si le serpent mord faute de charme, il n'y a point d'avantage pour le charmeur. J'aime bien ces petites paroles, ces petits proverbes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, suivant les traductions, on arrive à des sens qui peuvent être surprenants. Une fois qu'on lit les deux passages, dans le même passage dans des versions différentes, on peut faire le rapprochement. Mais là, il parle des gens qui vont creuser une fosse, ils vont finir par y tomber. Alors, ce n'est pas nécessairement dans le sens où on creuse une fosse pour faire du mal à quelqu'un d'autre, comme Aman qui avait dressé un gibet pour l'oncle d'Esther, et qui s'est retrouvé à être condamné à mort sur ce gibet. Mais c'est vrai que si on fait un grand trou, il faut faire très attention parce qu'un peu de folie, on va finir par tomber dans ce trou nous-mêmes. Celui qui fait une brèche dans une clôture, il faut faire très attention parce que, surtout à l'époque en Israël, les murs en pierre gardent la chaleur et souvent les serpents aiment se réfugier là. Lorsqu'on va faire des randonnées, c'est toujours prudent de ne pas aller marcher sur des pierres en équilibre au soleil. C'est souvent là que des serpents peuvent se cacher. Celui qui remue des pierres va finir par se blesser. Là aussi, c'est un conseil de sagesse. Bien faire attention à ce qu'on fait. Celui qui fend du bois court un risque. Le propriétaire des locaux que nous avons commencé à acheter, en fait, c'était un chirurgien-dentiste qui a dû arrêter prématurément son travail parce qu'en fendant du bois avec une machine, avec un coin il tenait une bûche et il s'est blessé à la main gravement. Des tendons ont été coupés et il n'a pas pu reprendre son métier qui était fondé sur sa dextérité. Encore une fois, dextérité, c'est à droite. C'était un événement sinistre est arrivé à sa dextérité. Et celui qui fend du bois court un risque. Et on sait quand on coupe du bois, on fait ça souvent à la montagne, à Saint-Martin-de-Vésubie. Pour le feu, il faut faire très attention. Pour réussir, donc. Et puis, il ajoute au verset 10, si le fer est émoussé et qu'on n'en ait pas aiguisé le tranchant, on va devoir travailler encore beaucoup plus dur. La sagesse a l'avantage du succès. La sagesse, elle conduit à la réussite dans ce qu'on entreprend. Si le fer est émoussé, qu'on n'a pas aiguisé le tranchant, on va devoir travailler deux fois plus. C'est vrai physiquement, lorsqu'on essaye de couper du bois avec une hache qui n'est pas bien aiguisée, ou couper un steak avec un couteau qui n'est pas aiguisé, ça va demander deux fois plus de travail. C'est vrai aussi dans notre travail quotidien. Si on ne se repose jamais, si on ne prend jamais de vacances, on a l'impression des fois qu'on n'a pas le temps de prendre des vacances. Mais si on arrive à finalement prendre des vacances, on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus efficace lorsqu'on a eu un peu de repos, qu'on a un peu aiguisé nos capacités en nous reposant. Et c'est encore plus vrai spirituellement. Spirituellement, la parole dit que le fer aiguise le fer. Ça, c'est quand on est en groupe et qu'on partage des choses sur notre foi. On s'encourage dans la foi. Mais aussi, en ce qui concerne notre relation personnelle avec Dieu. Bien souvent, je me dis aujourd'hui, désolé Seigneur, mais je n'ai pas le temps. J'ai une réunion de prière avec les frères. Je n'ai pas le temps de passer du temps seul avec toi. Ou bien j'ai des choses ce matin à faire et je me suis levé trop tard, je n'ai pas le temps, je ne vais pas prendre le temps de passer 10 minutes, une demi-heure ou une heure avec toi, peut-être. Et on s'aperçoit qu'en fait, dans ces situations, rien ne va dans la journée. Parce qu'on est parti sur une mauvaise base, on n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Et tout semble échouer. Il y a une semaine, j'ai vécu une journée comme ça où à la fin, on s'est dit, j'aurais mieux fait de rester couché. J'avais plein de projets et tous les projets ont échoué. Je voulais changer la lampe sur l'ampoule de phare de notre voiture. J'ai été acheter la pièce, j'ai essayé de remettre et ça ne marchait toujours pas. Ce jour, ça ne marche toujours pas. J'ai dit, bon, mais c'est pas grave, je vais passer à autre chose. Et la deuxième chose, c'était les volets au deuxième étage, là, au premier étage. Ça ne marchait toujours pas, il y avait toujours des problèmes. Alors que j'avais passé du temps à les réparer la semaine d'avant. Et puis j'ai essayé de rencontrer quelqu'un qui n'était pas disponible. Et ce qui est terrible, c'est quand on essaye de régler des problèmes et qu'au fur et à mesure que la journée avance, on ne règle aucun problème. Par contre, on emmagasine plein de nouveaux problèmes. Alors ça ne veut pas dire que si on passe une heure avec le Seigneur, tous ces problèmes ne vont pas arriver. On vit dans un monde entaché par le péché. Il y a des machines à laver qui tombent en panne, des voitures qui ont du mal, etc. Mais si on ne prend pas ce temps pour aiguiser notre relation avec Dieu, je crois qu'on ne devrait pas s'étonner qu'on prenne de mauvaises décisions, qu'on aille voir des gens avec une mauvaise disposition de cœur qui fait qu'on n'a pas le succès dans nos entreprises. Et il ajoute, si le serpent mord faute de charme, il n'y a point d'avantage pour le charmeur. Normalement, lorsque les charmeurs de serpents, on sait que les serpents n'ont pas d'oreilles, enfin c'est ce que j'ai lu, j'ai pas été voir de trop près. J'aime pas les serpents, j'ai horreur des serpents. Et que c'est les vibrations qu'il ressent sur son corps, sur sa colonne vertébrale, qui le tranquillisent et font qu'il ne va pas essayer de vous attaquer. Mais là, ce qu'il dit, c'est que si vous venez charmer le serpent après qu'il vous ait mordu, que vous ne l'ayez pas fait à temps, ça ne va pas être un grand avantage pour le charmeur. Et ça, il nous dit donc dans ce passage qu'il y a la folie qui nous guette quand on entreprend les choses, mais que pour réussir, il faut prendre des précautions intelligentes. Si on fait une fosse, peut-être on creuse un grand trou, peut-être mettre une barrière ou quelque chose qui nous évite de tomber dedans en reculant pour regarder autre chose. Faire attention aux serpents dans le mur en pierre. Il faut se préparer convenablement, c'est l'idée, déguiser la pierre, déguiser les instruments, de vérifier que nos outils sont en bon état de marche, et puis aussi choisir le bon moment. Il faut prévoir les choses avant, il ne faut pas dire tiens on va charmer le serpent alors qu'on a déjà été mordu par le serpent. Lisons les versets 12 à 15. « Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Le début des paroles de sa bouche est une sottise, et la fin de son discours est de la démence malfaisante. L'insensé multiplie les paroles, l'homme ne sait pas ce qui arrivera, et qui lui annoncera ce qui arrivera après lui ?» Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Là encore, on peut lire ces choses rapidement et se demander quel est le rapport, de quoi il s'agit. Là, je crois qu'il parle de la folie qui guette celui qui aime bien parler, de celui qui aime bien s'entendre parler, comme le pasteur. Il peut des fois dire des choses qui ne sont pas fidèles à la parole, et c'est un danger qui guette toutes les personnes qui aiment bien tchatcher. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Les paroles peuvent être destructives. On peut dire des choses, on peut faire tellement de mal, c'est ce que dit l'épître de Jacques, ce que Jacques dans son épître, dans ce qu'il nous a dit, qu'on connaît sous la forme de l'épître de Jacques, la bouche est une petite chose qui peut faire de grands dégâts. On peut faire beaucoup de bien en disant des paroles constructives, mais on peut aussi faire beaucoup de dégâts avec des paroles méchantes. Faites attention à ce que nous disons. Faisons attention à ce que nous disons à nos enfants. Si on dit à un enfant qu'il est un bon à rien, il va finir par le croire et agir en fonction de ça. Et les lèvres de l'insensé vont faire du mal, mais elles vont causer aussi sa propre perte. Et c'est un peu humoristique, le verset 13. Au début, il dit des sottises, mais à la fin, ça devient de la démence malfaisante. On peut dire des choses qui sont fausses, on peut dire des bêtises. Mais si on continue à toujours parler avec folie, à la fin, ça va faire du mal, et c'est comme de la folie à l'état pur. Il y a aussi des proverbes, j'en ai noté quelques-uns, je crois que c'est proverbes 18, 17, qu'est-ce que c'est ? Le premier qui plaide sa cause paraît juste, vient de sa partie adverse, elle lui demandera des preuves. Ça, c'est plutôt dans les disputes. Mais on sait que un des dangers, c'est de, quand on a de la folie, c'est de multiplier les paroles, de ne pas arrêter de parler. Quand on fait ça, ça veut dire qu'on n'écoute pas les autres. Et souvent, ça fait que les autres n'ont pas envie d'entamer une conversation avec vous. Ils savent quand ça va commencer, ils ne savent pas quand ça va se terminer, ils savent que vous n'avez pas envie de les écouter. Et, Et souvent, on raconte l'histoire de quelqu'un qui disait qu'est-ce qu'il parle bien. En fait, la personne n'avait rien dit, mais elle avait simplement écouté l'autre qui lui parlait. Et on dit que Dieu nous a donné deux oreilles et une seule bouche, parce qu'il veut peut-être qu'on écoute autant, deux fois plus de temps, qu'on ne parle nous-mêmes. Et ces paroles, elles peuvent être un peu orgueilleuses. C'est la fin du verset 14. L'homme ne sait pas ce qui arrivera. Qui lui annoncera ce qui arrivera après lui? Souvent, ces personnes ont tendance à vouloir vous dire qu'ils ont tout compris, qu'ils savent pourquoi il y a des problèmes économiques, des problèmes politiques. C'est d'ailleurs intéressant, je vous l'ai déjà dit, mon souhait, c'est que tous ces donneurs de conseils dans les émissions de télé se fassent lire et mettent leurs idées, leurs grandes idées en pratique. C'est un peu dommage d'avoir toutes les solutions dans les studios de télévision et pas dans les lieux de pouvoir, franchement. Et il dit, le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Souvent, ces gens qui parlent beaucoup, ils ont tout résolu, mais ils ne savent pas faire les choses les plus simples, comme aller à la ville, trouver le bon bus pour aller au centre-ville. C'est un peu plus difficile à Nice en ce moment avec les changements d'itinéraire des bus. Mais là, il veut nous dire qu'un peu de folie, pour celui qui aime parler, ça peut être très néfaste. Et puis, il parle aussi, on va lire la fin, « Malheur à toi, pays dont le roi est un jeune garçon et dont les ministres mangent dès le matin. Heureux toi dont le pays est un fils de noble et dont les ministres mangent au temps convenable. » Pour prendre des forces et sans boverie. Avec deux mains paresseuses, la charpente s'affaisse, avec deux mains lâches, la maison a des gouttières. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Ne maudis pas un roi, même dans ta pensée et dans ta chambre à coucher, ne maudis pas un riche. Car l'oiseau du ciel en emporterait l'écho, la jante ailée redirait ce que tu as dit. » Ça, il parle d'un peu de folie dans le gouvernement. Versets 16 et 17, il est frappé par les jeunes. On parlait de personnes incompétentes qui se retrouvent au pouvoir. Là, il parle aussi du roi qui est un jeune garçon, un roi trop jeune, quelqu'un de trop jeune. Alors, ça ne veut pas dire que la jeunesse est nécessairement synonyme de sottise, mais elle est souvent synonyme de manque d'expérience. Et il parle des ministres qui mangent dès le matin. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre votre petit déjeuner, mais apparemment le contraste montre que ils se gavent le matin. Ils mangent pas pour vivre, ils vivent pour manger. Ils profitent de leur position auprès du roi qui est un jeune sans expérience. Ce qui est intéressant, c'est que le roi Salomon lui-même, son fils Roboam, qui lui a succédé, et qui a été à la source de la division avec le roi Rehoboam du royaume d'Israël en deux parties. Dans 1 roi 3, 7, on sait que, comment il s'appelait, Salomon avait demandé à Dieu, parce qu'il disait « Je ne suis qu'un jeune homme, je ne sais pas gouverner. » Il avait demandé la sagesse, un cœur attentif pour gouverner le peuple, ce que Dieu lui avait accordé en grande quantité. Mais lorsqu'il est venu temps de succéder à Salomon, on se souvient que le roi Roboam a rejeté le conseil des anciens et qu'il est allé auprès de ses amis pour demander du conseil. Et que là, Ils lui ont dit qu'en fait, il fallait qu'il soit plus dur que son père ne l'avait été. Et ça a conduit à une révolte et à une division du royaume. Le roi était un trop jeune garçon. On connaît par ailleurs dans la Bible des rois qui ont été jeunes, qui ont été de très bons rois, même très jeunes. C'est donc pas nécessairement lié, mais il était entouré par des conseillers qui le tournaient vers Dieu et vers la parole de Dieu. Avec deux mains paresseuses, la charpente s'affaisse, deux mains lâches, la maison a des gouttières. Ça, il parle de la folie dans le gouvernement lorsqu'il y a de l'incompétence. Et il prend des exemples qui nous parlent à tous. Si on a des choses à maintenir en marche, si on a une voiture et qu'on l'entretient pas, elle va finir par tomber en panne. Si on ne bosse pas à l'entretien d'une maison, la charpente va s'affaisser. C'est intéressant qu'on a des problèmes de gouttière. C'est pas parce qu'on est, on s'en occupe pas, mais si on ne fait rien, ça va empirer. Et je remercie Tonio pour ses efforts de recherche et tous ceux qui voudraient se joindre à lui. Le centre des enfants à la montagne, c'est pareil. Pendant quelques années, il n'y avait pas vraiment d'équipe qui s'en occupait. Et chaque fois qu'on montait, il y avait des robinets qui fuyaient, il y avait les portes qui avaient été cassées, qui n'avaient pas été réparées. Et là aussi, il faut éviter la folie, il ne faut pas être paresseux, il faut mettre la main à la pâte. Et puis, il a cette phrase, on fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, l'argent répond à tout. Alors là encore, il faut faire attention lorsqu'on prend un passage dans la Bible, de voir dans quel contexte il est écrit. Là, c'est la solution des gens qui sont atteints par la folie et qui pensent que les repas, c'est fait pour faire la fête. Le vin, ça va nous rendre gais. Et puis, on peut tout résoudre avec un peu plus d'argent. Malheureusement, c'est souvent le cas de ce que, dans les gouvernements, on augmente les impôts. On va résoudre les problèmes avec plus d'argent, alors qu'en fait, ce n'est pas nécessairement la solution. Mais là encore, on ne veut pas s'égarer dans la politique. L'argent ne répond pas à tout. On sait que l'argent, c'est... Paul nous disait dans 1 Timothée 6 que l'argent, c'est la source de bien des maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et même quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. C'est vrai que quand on pense... à notre vie, souvent les moments les plus heureux, ce n'est pas nécessairement les moments où on a le plus d'argent. La vie d'étudiant, on est souvent pauvre et sans le sou, mais on a de bons souvenirs pour toute une vie. Ce n'est pas l'argent qui répond à tout. Puis il termine par quelque chose qui semble un peu déplacé, mais ne maudis pas un roi même dans ta pensée. Dans ta chambre à coucher, ne maudis pas un riche. Encore une fois, le riche était associé au sage. Car l'oiseau du ciel en emporterait l'écho, la jante ailée redirait ce que tu as dit. Là aussi, c'est le manque de discrétion dans le gouvernement. Mais c'est le manque de discrétion dans nos propres vies. Vous avez tous été surpris. Alors, il y a cette expression, l'oiseau du ciel, c'est un petit oiseau qui me l'a dit. Vous dites quelque chose dans le secret, ça veut dire que vous le dites à une seule personne en lui disant surtout j'ai un secret, tu vas le répéter à personne, d'accord ? Oh oui, non. Et puis quelques temps après, vous apercevez qu'en fait le secret, il a été transmis à une personne à la fois, à tout le monde. Tout le monde est au courant. Et là, c'est une invitation à garder des choses secrètes. Est-ce que vous pouvez garder un secret ? Parce que si vous n'êtes pas capable de le faire, les choses vont finir par se savoir et ça va vous retomber dessus. Et un bon conseil, parlant de politique, ne maudis pas un roi, même dans ta pensée, ne maudis pas un riche. La Bible nous conseille vraiment de ne pas faire les guignols de l'info. Notre passe-temps favori en France, c'est de casser du président, de casser du Premier ministre, se moquer de ses responsables. Ces responsables, mes amis, c'est nous qui les avons mis au pouvoir. Et si vous n'avez pas voté pour eux, c'est que vous n'avez pas été assez bon pour convaincre les autres de voter pour l'autre. Donc, silence, ne maudissez pas un roi. On est invité dans la parole de Dieu à respecter la charge, pas nécessairement la personne, parce qu'on voit que les personnes sont des pécheurs comme nous et peuvent faire des choses déplorables, mais essayons de ne pas maudire, de dire du mal de nos responsables politiques. C'est une tâche difficile et ils ont besoin de la sagesse de Dieu. Au contraire, Paul dans Timothée nous dit, j'exhorte en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous avons d'autres choses à nous occuper que de critiquer le gouvernement. Nous devons voter, nous devons être partie de la cité, mais notre priorité en tant que chrétien, c'est de propager l'évangile, c'est de donner la bonne nouvelle à tous les hommes, et même à ceux qui nous gouvernent. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est des fois amusante, elle est des fois surprenante. Mais Seigneur, on sait qu'on doit tout faire pour éviter la folie et vivre avec ta sagesse. Aide-nous à le faire à quelque niveau que ce soit, Seigneur. Que ce soit dans nos rapports avec nos supérieurs au travail, dans notre propre travail, dans la façon dont nous parlons et aussi dans la façon dont nous considérons le gouvernement, Seigneur. Donne-nous cette sagesse qui fait que nous n'allons pas vivre sous le soleil, mais les yeux tournés vers toi. Seigneur, tu nous dis dans Colossiens que si nous sommes ressuscités avec Christ, tu nous invites à chercher les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car nous sommes morts et notre vie est maintenant cachée avec Christ en Dieu. Et quand le Christ apparaîtra, notre vie paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Seigneur, apprends-nous la sagesse. Apprends-nous à éviter même les petits coups de folie, Seigneur. Merci pour ta parole. Et Seigneur, nous te demandons de faire qu'elle transforme nos vies, Seigneur. Aide-nous à être un peu plus sages avec cette sagesse qui vient d'en haut, dans le nom de Jésus. Amen.